Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'entendre la retransmission de la cérémonie d'installation du peintre Velikovitch sous la coupole. Cette séance exceptionnelle s'est déroulée le mercredi 20 juin 2007. Vous entendrez Pierre Schoendoerfer, président de l'Académie des Beaux-Arts pour 2007, introduire la séance, puis le discours de réception du compositeur Jacques Tadei, membre de l'Académie accueillant son confrère, et selon l'usage, le discours de Vladimir Velikovitch, élu membre de la section de peinture le 7 décembre 2005, au fauteuil précédemment occupé par Bernard Buffet.
La séance est ouverte.
Madame le ministre, mesdames, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, aujourd'hui, mes choix, le plaisir rare et singulier de recevoir sous la coupole mon ami et confrère Vladimir Velikovitch, nouvellement élu à l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil précédemment occupé par notre regretté Bernard Buffet. Ce plaisir est rare, car la cérémonie à laquelle nous participons dans ce lieu historique, unique et solennel, est réservée aux membres de deux des cinq académies qui composent l'Institut de France, l'Académie française et l'Académie des Beaux-Arts. Ce plaisir est aussi singulier, car je connais peu d'exemples de créateurs reçus par un membre d'une autre section que celle à laquelle il appartient et dans laquelle il a été élu. En me choisissant, cher Vlada, tu as choisi de privilégier une amitié de 40 ans dans ce geste associant la musique à la peinture. C'est un grand bonheur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Ton œuvre est exposée dans de très nombreux musées d'art moderne et des centres d'art contemporain, ainsi que dans des galeries prestigieuses. Galerie de France, Galerie du Dragon, Hervé Odermatt, Patrice Trigano, Yann Crigier, Marlborough, Marwan Hoss. Tu as fait l'objet de plus de 350 expositions personnelles à travers le monde, ainsi que de très nombreuses monographies. Ta peinture a été commentée et analysée par des critiques d'art, philosophes, écrivains et poètes, aussi éminents et divers qu'André Velter, Alain Jouffroy, Jean-Luc Chalumeau, Marc Lebeau ou Michel Onfray, dont l'ouvrage « Splendeur de la catastrophe » est consacré à ton œuvre. Je me référerai souvent à leurs écrits et je les remercie d'avoir, par leur talent, alimenté ma réflexion ainsi que le contenu de ce discours. Même notre confrère, Georges Mathieu, dans son discours de réception sous cette coupole le 28 janvier 1976, te cite avec, je le cite, « tous ceux qui, de Tinguely à Armand, de Segal à Voirol, de Jasper Jones à Christo, de l'op art au pop art, de l'art conceptuel à l'hyperréalisme, poursuivent aveuglément la même démarche. L'interprétation d'un réel antérieur, sa métamorphose ou sa dérision. Cet irrespect vis-à-vis des dogmes, des institutions, des églises n'inaugure ni aucune nouvelle éthique, ni confère aux hommes aucun surcroît de grandeur ni de dignité. Cette révolte ne fait que défaire, détruire, déraciner. » Je me garderai bien sûr de commenter ces propos. Quant à toi, tu es né à Belgrade en 1935, fils unique dans une famille francophone. Ton père est ingénieur et professeur à l'université, ta mère bibliothécaire. Nous avons une pensée particulière pour elle aujourd'hui. Un de tes grands-pères, écrivain et diplomate, notamment pendant la révolution d'octobre à Moscou. En 1941, la guerre fait rage, Belgrade est bombardée, perturbant ta scolarité. En 1944, des résistants sont pendus au réverbère de la ville. Tu auras pendant longtemps le hurlement des lance-roquettes dans les oreilles. En 1948, Tito dit non à Staline. Le pays est plongé dans un isolement économique et culturel. Dans tes premiers tableaux et dessins, tu utilises comme modèle les illustrations démodées des manuels de médecine légale. Plus tard, tu ajouteras des souris, des oiseaux empaillés, ainsi que des éléments sacrifiés au fur et à mesure de ton travail. Pour le dessin, tu aimes ce qu'on appelle les primitifs, bosse surtout, l'équilibre savant et profond des artistes de la Renaissance, tels que Léonard de Vinci et Albert Dürer, dont la conscience d'artisan hante tes rêves. Tu exposes pour la première fois en 1951 dans une exposition collective. À cette date, le réalisme soviétique fait place à une confrontation entre peintres abstraits et figuratifs. Et si tu prends la décision de suivre des études d'architecte, tu participes à de nombreuses expositions. Tu obtiens d'ailleurs ton diplôme d'architecture très très brillamment. Que tu aies été architecte, cela se voit dans ta peinture, sous la forme d'indications de l'échelle, de quadrillage, une écriture structurée de lignes, et dans l'artiste à respecter la perspective et d'une façon générale de la rigueur du tracé. Certains traits blancs sur fond gris ou noir rappellent les épures sur papier calque. C'est également une idée d'architecte que celle de laisser sur l'œuvre achevée les marques de l'essai, le schéma du projet, les lignes tracées pour faciliter la mise en place. La charpente fait partie intégrale de l'architecture de la toile et sa valeur n'est pas seulement constructive mais également esthétique. Pour toi, il n'existe aucune hiérarchie entre le dessin et la peinture. En 1962, tu prends la décision de quitter Belgrade. Tu dis toi-même, et je te cite, « Je suis parti non pour partir, mais pour arriver. » Tu rejoins à Zagreb le peintre Ege Dušić pendant une année, ponctuée d'invitations comme à la Biennale de San Paolo. Ton séjour dans cet atelier est important. Ege Dušić marque par sa personnalité, son esprit créatif, son regard impitoyable doublé d'un certain humour noir. Je ne suis pas certain que vous soyez très bien entendu. Tes premiers tableaux, ceux de l'époque de la Médiala, ni l'esthétique de la génération précédente. Le chaos, la mort, la menace, la pauvreté remplissent ces chambres obscures et tragiques, avec des cages, un lit, des lampes, des torchons, des fenêtres de prison, des lanternes, des bouteilles. Toute vie humaine semble avoir disparu de ces lieux, que ne hantent qu'un hibou et un chien. Il règne sur ces images un souffle de mort, de décomposition et de misère, qui ne sont pas sans rappeler la thématique des premières œuvres de Bernard Buffet dans les années 50. La même année, tu épouses Maristella, la femme de ta vie, à la beauté intemporelle et lumineuse. En 1963, tu crées les grandes têtes pleines de douleur, des bandes colorées parallèles semblables au grillage d'une fenêtre délimite l'espace. Plus tard, ce thème sera modifié et de victime, la tête deviendra un élément actif, comme cet orateur à la mine horrible, bouche grande ouverte dans un hurlement, image symbolique de ceux qui font la loi dans des situations totalitaires, telles qu'elles étaient vécues à l'époque, les autres étant condamnés au silence. Notons dans ces compositions la présence de motifs récurrents, tels les animaux, chiens, souris, oiseaux. Tu exposes pour la première fois à Bruxelles une série de dessins intitulés « Les apparences de la peur ». La même année, tu représentes la Yougoslavie à la Biennale de Paris, où te sera décerné le premier prix, à savoir une bourse de 5 mois dans la capitale. Vous vous installez en fait pour 2 ans à la Cité internationale des arts, sur le quai, au bord de la Seine, à l'initiative du peintre Jean Hélion que tu as rencontré. C'est dans ce lieu, construit à l'époque depuis peu et qui abrite de jeunes artistes, peintres, plasticiens, musiciens, français et étrangers, que s'est nouée cette amitié qui nous lie et qui dure depuis tant d'années. Tu rencontres à Paris des critiques d'art Alain Jouffroy, Gérard Gassiot-Talabot, Marc Le Botte. Dès lors, toutes les nombreuses séries thématiques qui suivront, avec leurs images poignantes, seront hantés par la pensée obsessionnelle et l'angoisse de l'artiste pour le destin de l'homme et de notre monde, pour l'agressivité et les tortures, pour la violence, la destruction et la mort exercées par l'homme contre l'homme. Tu dis d'ailleurs, j'ai toujours peint ce que l'homme est capable de faire à l'homme. La violence, dis-tu, est toujours là, présente, pesante, effrayante, en tenue de guerre, en état de guerre, et en état d'après-guerre. À partir de 1968, tu procèdes à la dramatisation de l'origine de la vie dans une série intitulée « Naissance ». Cette série dérange et fait peur. Est-ce la signification même de l'existence que tu remets en cause lorsque tu remplaceras dans des œuvres l'embryon par le rat? Tu nous suggéreras une image à la fois douloureuse et une violence horrifiante, nous laissant entendre qu'après la disparition de l'homme, seul le rat survivra sur la terre. En 1971, année de la mort de ton père, la mobilité déjà présente des formes s'accentuera avec la révélation du travail photographique d'Edward Muybridge. Ces séries de photos te fournissent un matériau qui se prête à une approche résolument nouvelle du mouvement. Elles marquent en outre un tournant dans ton œuvre et donnent lieu à une série d'études sur le mouvement analytique d'hommes qui courent, sautent, tombent ou de lévrier, comme dans la série Autoportrait, te représentant en chien agressif et tyrannique, ce que tu n'es pas en vérité dans la réalité. Tu as un rapport particulier à la photographie dont l'apparition un siècle auparavant avait jeté un trouble dans l'art en amorçant l'érosion du visible et bousculant la peinture à travers son rapport au monde. Il est à noter que le mot « image » est l'anagramme de « magie ». Tes œuvres partent du document, photos de lévriers en pleine course, de rats, d'oiseaux, tu les reproduis par quadrillage. Le mouvement des hommes est décomposé au moyen de la photographie. Cette référence te permet de refuser les connotations affectives ou pittoresques, retenant d'emblée l'instrumentalité. En immobilisant un mouvement, tu décomposes et recomposes les cadences et les séquences. En 1972, tu participes pour la première fois à la Biennale de Venise. Et là, il y a une petite anecdote. Je crois que le nonce apostolique, à ce moment, a demandé le retrait de ton œuvre. Il n'a pas obtenu satisfaction, mais je crois que ça avait fait grand bruit à l'époque. Vous dire déjà à quel point l'œuvre de Veličković pouvait choquer. L'année suivante ont lieu trois expositions simultanées à Paris. Galerie du Dragon, Galerie Hervé Odermatt et à la Pochade. Ton œuvre s'enrichit. Le mouvement devient une réaction à la rigidité intérieure, une nécessité vitale. Ce n'est pas par hasard, précise Alain Jouffroy dans un ouvrage consacré à tes dessins, si tes figures s'adonnent à une activité naturelle intense, en réaction à l'introversion angoissée et à l'accablement qui caractérisait celle des peintures de la génération précédente, et notamment Giacometti ou Bacon. Bacon, que tu as d'ailleurs rencontré à Paris, et qui, comme toi, partage un sens inné de la tragédie humaine. De 1973 à 1980, tu créeras, entre autres, une grande série intitulée « Éléments ». Ses caractéristiques sont la densité de la composition et la densité des motifs. Tu es invité à l'exposition « 12 ans d'art en France, 1960-1972, au Grand Palais ». En 1975, a lieu une grande exposition à la Kunsthalle de Düsseldorf. C'est un moment important. Tu commences la série des lieux, grand format, sans la présence de la figure humaine. L'année suivante est éditée la première monographie qui t'est consacrée, avec des expositions à Genève, dont une préface du poète et peintre Henri Michaux, ainsi qu'à Bologne, Turin, Milan, Stockholm. Dans les années 80, le retour à la couleur, déjà apparu de façon allusive, s'impose tout à fait à toi. Tu es nommé en 1983 professeur à l'École nationale des beaux-arts. Je salue ici son directeur. Belle expérience longue de 18 ans, excitante et enrichissante, basée sur le dialogue et le respect scrupuleux de l'étudiant et de son individualité. Cette individualité et ce respect scrupuleux étaient les critères absolus de l'admission à ton atelier. En 1986, fin de la série des lieux, tu as envie de changer. Dans le cycle « Crise et crochet », le dessin occupe presque entièrement la place de la peinture. Peu à peu, le geste change, ainsi que la touche. Une gamme de bruns et de noirs s'impose. La même année, nouvelle série de peintures, dessins, collages, appelée « Descente ». avec des expositions à Los Angeles, Helsinki, Bruxelles et Paris, et avec notamment le Palimpseste des peurs du poète André Velter. Arrêtons-nous un instant sur son écriture sobre et poétique, car elle sait rendre avec les mots les plus bouleversants la passion de la vie et de l'action, l'impasse dramatique de l'homme vécu sans Dieu, la désolation de la terre. Baudelaire avait raison lorsqu'il affirmait que la plus belle critique d'un tableau pourrait prendre la forme d'un sonnet ou d'une élégie. Et je vais vous lire ce poème d'André Velter en partie. Il y a ceux qui montent au balcon, en chair, à la tribune, qui montent pour parler. Il y a ceux qui descendent à la mine, à la cave, aux catacombes, qui descendent pour lutter. Il y a ceux qui montent au créneau, au château, au plus haut du pavé, qui montent pour gagner. Il y a ceux qui descendent quatre à quatre, en marche, en flamme, qui descendent pour agir. Il y a ceux qui montent au Golgotha, à l'échafaud, au paradis, qui montent pour mourir. Il y a ceux qui descendent de l'Olympe jusqu'au fond du puits, où se voient les étoiles, qui descendent pour s'éblouir. Il y a ceux qui vont sur les marches du vide, à bout de souffle, à bout de sens. Veličković ne peint que des descentes. Veličković ne suit que la pente du destin. Et ses voyages repérés, estampillés, affranchis, ne sont que des balises d'une seule destination, d'un seul abîme, d'un seul néant, où la ligne de fuite devient poussière de nuit, où le pont aveugle est un lieu sans conscience ni retour. Dans ce théâtre, les personnages sont des flambeaux de cendres avant la dispersion. Les escaliers sont des stèles, des sortes de tombeaux, ou bien les degrés pesants de l'observatoire du vide. Les passerelles ne se raccordent pas, les tremplins dominent une fournaise noire, les passages mettent l'espace en croix. Veličković ne prophétise pas, ne moralise pas. S'il dénonce, c'est par mégarde. Il est à lui seul l'énergie du désespoir, la violence jetée contre une violence sans emploi. Son œuvre, à l'évidence, est la force d'une rumeur immémoriale qui mêle les instants et les corps, qui réinvente l'éclair sombre des destinées et célèbre une course affolée, lyrique, maîtrisée, une course au néant. Tes œuvres intitulées Crochets se caractérisent par une mobilité particulière et par la sensation d'épouvante qu'elles irradient. Les morceaux de ferraille sont ployés par le martyre de la résistance et de la torture. De même, la fuite inéluctable et la chute dans le chaos se préparent dans la géométrie de l'espace, des marches et d'une estrade souvent accentuées par la couleur rouge. L'homme, ici, semble pris au piège. Même s'il s'agit dans toutes les directions, il monte, il descend, il veut fuir, s'échapper, affolé et épouvanté avec l'élan du désespoir gravé sur son corps. Il court, à la fin, les ténèbres inexorables, la chute. En 1991 est organisée une exposition presque complète, 10 peintures et 40 collages des lieux à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Grands espaces gris, avec quelques traces. L'homme a complètement disparu. C'est l'abandon et la solitude. Tu installes quant à toi ton atelier dans une ancienne manufacture à Arcueil. Longue galerie dépouillée, immense voûte blanche surbaissée en pavé de verre, univers de grand format rangé, accumulation de documents épars, de photos épinglées, de dessins éparpillés. Peu ou pas de couleurs, les sièges sont noirs ou blancs. Au fond, un jardinet avec un arbuste, seul élément et symbole de vie. Tu passes dans cet atelier l'essentiel de tes journées. C'est à la fois ton lieu de travail et aussi un lieu de vie. 1992, la Yougoslavie, pays auquel tu appartiens corps et âme, explose. C'est le début de la guerre en Bosnie. 1992, c'est aussi le titre des premières peintures de paysages déserts et calcinés avec des potences et des trous. Cette série comporte deux versions. La première évoque à travers des scènes d'Apocalypse la désolation et l'anéantissement intégral, tandis que la seconde dénonce l'événement historique abominable, l'embrasement injuste d'un pays qui se trouve être ta patrie. Dans les premiers paysages, seul demeure et unique témoin du dénuement biblique, deux emblèmes exilés, l'homme et l'arbre. L'arbre, vestige de toutes les légendes, de tous les mythes, de toutes les séductions, de toutes les connaissances. La terre est devenue stérile. Ses entrailles vomissent désormais des arbres aux branches faites d'os humains. L'homme, sans visage, court épouvanté afin de s'échapper ou de se perdre dans l'obscurité impénétrable du mur. Des vestiges d'une chair sanguinolente deviennent les témoins de l'anéantissement meurtrier. La hampe rouge et les autres diagonales balisent l'espace dans un ciel mouvementé. La désolation et l'absence de vie arrivent à leur apogée dans des paysages bouleversants de dimensions impressionnantes. Une terre brûlée à perte de vue, noyée sous la cendre encore chaude, ciel impénétrable et soleil noir, couleur de la mort et du néant. Quelques lueurs toutefois rouges, le feu qui lèche encore la terre, un enfer qui hurle l'injustice et l'indignation. Les guillotines, nouvelles croix, témoins funestes de l'impitoyable crime qui vient d'être perpétré sous nos yeux. Comment l'artiste pourrait-il exprimer autrement son désespoir et rappeler le drame d'un peuple que l'on a déraciné, égorgé, décimé? Pour paraphraser Goethe, tu sens d'une main qui voit, tu vois d'un œil qui sent. En 97 paraissent les deux volumes de la monographie sur tes dessins. L'année est ponctuée de deux grandes expositions, l'une au Musée d'art contemporain de Thessalonique, l'autre à la Pinacothèque nationale d'Athènes. Après 10 ans d'absence, tu fais 3 expositions à Ljubljana, en Slovénie, pour faire le pont, comme tu dis, sans humour, et recoudre ce que la politique a déchiré. L'exposition Blessure a lieu à la Fondation Coprim. Préfacée par Michel Onfray et Gilbert Lascaux, elle dégage une impression de violence, de destruction. Tu l'as dédiée à mon pays qui n'existe plus. On ne sort pas indemne de ces visions. Lecture du réel tragique, cette thématique exprime sur le terrain pictural ce que nous autres musiciens pratiquons aussi sous la rubrique de la variation. Variation sur un même thème obsédant, mouvement perpétuel, ostinato, passacaille. En 99, c'est le départ forcé par l'âge de l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est un moment douloureux et affectif à la fois. Tu débutes alors une longue série de têtes, ce sont encore des blessures. La partie du corps, longtemps absente, est soudain retrouvée et constitue un panneau de 56 peintures sous la forme d'iconostase. De même, tes leçons de ténèbres, ces leçons de ténèbres chères aux compositeurs du grand siècle, méritent un œil fort et courageux. L'enfer est ici et maintenant, hic et nunc, au lieu exact où l'on se trouve. L'homme n'arrive de nulle part et provient de partout. La pulsion de mort a pris possession de tout le réel et ne laisse aucun espace, aucun interstice, aucune infractuosité dans laquelle pourrait s'immiscer un peu de lumière avec laquelle initier l'hypothèse infime d'un espoir. Dans ce monde règne un silence assourdissant. Tout pend et tout tombe. Ainsi que le dit Michel Onfray, Veliskovitch brode comme d'invisibles nornes un linceul pour l'éternité. Chacun dispose d'un corps, son seul bien, bien fragile, précaire, exposé, car la mort l'emportera. Son monde tragique est celui où le rachat, l'expiation n'existe pas. Cette thématique pessimiste enseigne d'antiques certitudes. L'inexistence du sens, l'inéluctabilité du néant, quels que soient les artifices de notre divertissement, l'impossibilité de tout espoir, la solitude abyssale de tout un chacun et la permanence de l'apocalypse. Veliškovitch refuse l'optimisme judéo-chrétien, la possibilité messianique, la dualité du monde platonicien dont est issu le monde chrétien. Le corps et l'âme, la chair et l'esprit, le bien et le mal. Pour lui, dans un monde sans eau ni air, plus d'être, plus de nature, plus de tête, plus de feuilles, seuls subsistent la terre et le feu. Ce feu, pacifique à l'origine, indexé sur la pulsion de vie, auquel a succédé le feu du guerrier, puis et enfin le feu nucléaire. Le néant, voilà la réussite et l'aboutissement du feu. Pourtant, Veliškovitch a intitulé Grünwald la série de peintures sur papier, plus quelques toiles, que lui a inspirées depuis 1994 et particulièrement entre 2003 et 2004 la crucifixion du retable d'Isenheim, œuvre religieuse s'il en fut. Les peintures que Veliškovitch en tire sont elles-mêmes des tableaux religieux, car, comme disait Jean Cocteau, athée mais mystique, on parle toujours d'art religieux, mais tout art est religieux. La peinture de Veliškovitch est elle-même sacrée, parce qu'elle interroge avec une acuité extrême le tragique de la condition humaine. Si Novalis affirmait que c'est le ciel que l'on touche lorsqu'on touche un corps humain, Veliškovitch sait ne pouvoir atteindre l'homme que dans l'enfer où des mains d'hommes l'ont jeté. Dans ses peintures, le visage du Christ en sa passion a une position singulière. Il s'agit du visage d'un homme, parce qu'il est dit dans l'Écriture « fils de l'homme » et le visage de Dieu, parce qu'il est aussi fils de Dieu. Veliškovitch songe-t-il devant le visage du Christ sauveur aux victimes d'Auschwitz ou de Buchenwald, là où les prisonniers, dès leur arrivée dans le camp, étaient tondus dans un processus de dépersonnalisation et d'humiliation. Alors qu'il réalisait son retable, Grünwald, rendu méconnaissable par la maladie, vivait lui-même parmi les incurables. Il désignait ainsi à ceux qui avaient atteint le fond du malheur, cet homme, au plus bas de la détresse, comme étant l'incarnation de la plus grande théophanie, apparition divine de l'histoire, l'accomplissement des Écritures. Dans son œuvre, Veliškovitch ne parle jamais d'amour. On est seul, on souffre seul, on meurt seul. Il n'y a pas d'amour du prochain, la mort remporte toujours la mise. Les hommes pourtant refusent de se croire mortels. Ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Un jour, pourtant, il faut apprendre à renoncer, puis à dire adieu. Un soir, on ferme les yeux pour toujours. Fini les pirouettes. On a fait son temps, la représentation est terminée. Le rideau tombe, salue l'artiste. Hormis l'espoir du croyant, on ne laisse au mieux qu'une trace dans l'histoire, un souvenir dans le cœur des vivants, sinon c'est rien pour toujours. Marguerite Yourcenar nous dit qu'il faut vivre comme si on allait mourir dans les 5 minutes ou vivre 1000 ans. S'il n'y a pas d'amour dans l'œuvre de Veliškovitch, l'amour et le travail sont les divertissements de sa vie. Cher Vlada, cet amour, tu le réserves à ceux que tu protèges, à ceux que tu soutiens, à ceux qui ont besoin de toi, à tes proches, à ta famille, à ta mère si fière de son fils, à Maristé, la tendrement chérie, à Vuk, le flamboyant, à Marco, le sensible, à Ariane et Sacha, tes petits-fils que tu regardes avec tant d'amour et d'affection et de tendresse. Cher Vlada, notre compagnie est heureuse aujourd'hui d'accueillir en son sein un artiste et un homme tel que toi. Enfin, dans notre monde tragique, où la violence ne résout aucun problème, Le désespoir n'est toutefois pas une fatalité. Il faut apprendre à vivre. Imaginez l'homme tragique heureux, car si, comme le dit Kierkegaard, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en la regardant en avant. Et sans faire taire cet animal qui est en nous, il convient d'éviter le mal et la cruauté, de promouvoir la compassion et l'amitié, de pratiquer le pardon et la sympathie. Arrêtez les rapports de force. Il faut s'entendre, s'écouter, se parler. Que règne la paix dans nos cœurs, qu'elle advienne dans ce monde où nul ne reste et nul ne revient, où rien ne dure, où tout arc de triomphe se transforme un jour en ruine, car, comme disait Héraclite, nul ne se baigne jamais dans le même fleuve. Il faut faire de la mort le grand ennemi et de la vie la seule valeur, et savoir enfin, comme je l'ai fait inscrire sur le pommeau de mon épée symbolique d'académicien, que seul l'amour peut arrêter le temps. Merci.
La parole est maintenant à Vladimir Veliskovic.
C'est beaucoup plus simple de peindre que de se trouver devant vous en parlant. Madame la ministre, mesdames, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis. Merci, cher Jacques. Tu as su trouver les mots pour évoquer mon parcours. Parcours qui, au départ, ne s'appuyait que sur deux certitudes. De la peinture, j'allais faire ma vie, et tôt ou tard, ce destin devrait s'accomplir à Paris. À Paris et nulle part ailleurs. Évidemment, je ne savais pas que ce serait en représentant mon pays, la très regrettée Yougoslavie, à la Biennale de Paris en 1965, que j'obtiendrai le prix de peinture, prix qui s'accompagnait alors d'une bourse de séjour de 6 mois. Et voilà que ce séjour dure des plus 40 ans. 40 ans d'une activité acharnée, passionnante et, je ne le cache pas, ambitieuse aussi. J'ignorais tout autant à l'époque que je deviendrais également professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, et cela pendant presque 20 ans, pour une expérience enrichissante et parfois bouleversante. Mais ce dont je me doutais le moins, c'était de me retrouver un jour parmi vous, ici, dans cet institut qui vient de m'ouvrir ses portes. Jean Devanne me parlait il y a quelques années de cet invite qui à la fois me faisait l'honneur et m'impressionnait. C'est que pour moi, qui ai si souvent emprunté ce pont des arts, le triangle constitué de Louvre, de l'École des Beaux-Arts, de l'Institut, a quelque chose de magique, de fascinant, d'unique au monde. Une telle concentration, une telle sédimentation, siècle après siècle, de culture, de civilisation et d'art, a, dès ma jeunesse, mis en moi un frisson étrange qui tient de la jubilation et du vertige. Et aujourd'hui, comme jamais, un tel frisson perdure. Que vous dire de plus sur le sentiment que j'éprouve ici, en ce moment, sentiment de fierté personnelle, mais que je souhaite partager avec mon pays natal, la Serbie, qui, pour la première fois de son histoire, est présente en ce lieu prestigieux. Le hasard a voulu qu'aujourd'hui, je viens prendre place à la suite de Bernard Buffet au sein de votre illustre institution. Et d'emblée, je dois évoquer un détail qui désormais revêt une certaine importance et fait un clin d'œil au destin. Mon père, qui considérait d'ailleurs ma passion pour le dessin et la peinture avec un certain scepticisme, revenant d'un voyage en France en 1956, avait apporté dans ses bagages un numéro de Paris Match. À l'époque, à Belgrade, nous manquions de tout, surtout d'informations culturelles et artistiques. Le moindre magazine était comme une fenêtre sur le monde. Et dans celui-là, précisément, figurait un important reportage sur Bernard Buffet. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, ce n'était pas tant qu'un peintre puisse mener la vie du château avec Rolls et chauffeur, ce qui, dit par parenthèse, aurait dû rassurer mon père. C'était le trait du destin, cette manière d'user du crayon et de la plume comme d'un bistouri. Il y avait là, avec une extrême économie des moyens, une efficacité graphique, mais aussi plastique et picturale, tout à fait singulière. Et cette efficacité m'apparaissait si grande, si évidente, qu'elle justifiait une expression généralement employée à la légère quand on parle de l'exécution d'une œuvre. Oui, Bernard Buffet exécutait littéralement ses œuvres et je me suis senti alors très proche de sa démarche. Une double page m'avait particulièrement étonné. On y voyait Bernard Buffet assis sur une chaise à califourchon devant un mur recouvert de ses peintures. Il y avait 28 ans et l'accrochage derrière lui regroupait 14 ans de création. Cette image était restée gravée dans ma mémoire et grâce à Maurice Garnier, qui a suivi avec une passion et une fidélité rare toute la carrière de Bernard Buffet et qui continue à défendre son œuvre, j'ai retrouvé ce Paris Match et cette image qui m'avait fasciné il y a 50 ans. En revoyant aujourd'hui ce reportage, je me suis souvenu de mes débuts d'apprenti dessinateur et d'apprenti peintre et j'ai sans hésiter introduit Bernard Buffet parmi ceux que j'appelle mes professeurs. N'ayant jamais fréquenté une seule école d'art, ni même un cours de dessin, j'avais eu le loisir, ou l'outrequidance, de choisir librement mes maîtres. Leonardo, Michel-Ange, Dürer, Goya et bien sûr Picasso. Cela ne cessait de me persuader que la grande peinture passait par une maîtrise complète du dessin. Et voilà que, par l'entremise d'un reportage de magazine, je découvrais un artiste d'exception qui lui aussi confirmait cet axiome. Sans compter que j'avais lu au passage les interviews d'Andy Warhol qui déclarait que Bernard Buffet était à son avis l'artiste français contemporain le plus important, à quoi s'ajoutait une confidence de Francis Bacon qui se disait fasciné par ses nus, reconnaissait avoir été marqué par lui de manière décisive et l'article précisait au final que même Picasso lui avait acheté un tableau. Après ce souvenir lointain, il me faut maintenant, comme le veut la coutume, aborder la vie et le travail de Bernard Buffet. Je ne vous cacherai pas qu'en regardant de près son parcours et en lisant les textes le concernant, j'ai découvert un personnage hors du commun pour qui la peinture a été une absolue raison de vivre. La peinture, la sienne et rien d'autre. Né le 10 juillet 1928 à Paris, dans une famille bourgeoise venue du nord de la France, son enfance et son adolescence se déroulaient rue des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Au lycée Carnot, il n'est pas bon élève. Hormis les cours des sciences naturelles, qui supposent une certaine aptitude au dessin, pendant lesquels il réalise une quantité d'esquisses de plantes, d'animaux, pour le seul professeur qu'il apprécie et qui est une sorte d'anarchiste supérieurement intelligent, il s'ennuie ferme. Il est renvoyé du lycée au motif notifié par le proviseur et semble tout assez judicieusement qu'il n'est pas doué pour les études et qu'il devrait chercher sa voie dans le dessin. Buffet s'inscrit alors dans un cours de dessin de la place des Vosges, situé à la même adresse que la maison de Victor Hugo. Il y a 15 ans, et Ferrare réussit le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il y est orienté vers l'atelier du peintre Narbonne, qui n'a certes pas de génie, mais qui est au moins capable de déceler celui de son élève. Il obtient en 1945 le prix des travaux d'atelier. Narbonne lui prédit un grand avenir, comme le fait également Ojam, un autre chef d'atelier. Buffet a 17 ans. Suit une série de paysages parisiens sur les traces d'Outrillo. Le jeune peintre découvre M. Courbet, David, Géricault, Gros. En 1945-1946, il commence à travailler seul, bricole pour vivre, reproduit des miniatures qui se vendent surtout pour leur cadre constitué de fausses perles. Ses camarades sont attirés par Picasso. Lui pense qu'il y a autre chose à explorer, autre chose à dire. La rencontre en 1948 avec Pierre Descargues, l'un des critiques les plus respectés et les plus influents de l'époque, est déterminante, cruciale. Une première exposition dans la librairie-galerie de Guy Vellen et Michel Briand est organisée. Le soir du vernissage, personne. C'est un jour de grève et en plus, il neige. Mais, insensiblement, comme l'a dit Bernard Buffet lui-même, après, c'est parti tout seul. Et toutes les œuvres ont été vendues. Pierre Descargues est le premier à noter ce qui distingue d'emblée le nouveau venu. Il dit, il témoigne puissamment du désarroi de notre époque. L'inaction de ces personnages, leur vie absurde, Bernard Buffet les exprime comme un mal dont on est soi-même victime, avec violence, en se donnant soi-même tout entier à cette œuvre de vengeance, c'est-à-dire en mêlant intimement l'amour et la haine. Raymond Cogna, à l'époque directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, repère lui aussi aussitôt un artiste exceptionnel et lui achète une nature morte. Tout comme le docteur Girardin, collectionneur enthousiaste, qui cette même année 1948 recommande Bernard Buffet au jeune marchand Emmanuel David. Celui-ci réagit séance tenante en achetant tout ce qui se trouve dans la chambre atelier de la rue des Batignolles. Toujours en 1948, les événements se bousculent, événements importants. Un prix de la critique lui est décerné, il expose régulièrement dans la galerie qui transitoirement s'appelle Drouin David, jusqu'à ce que David s'associe à Maurice Garnier et s'installe avenue Matignon. Bernard Buffet est déjà célèbre et cette faveur précoce est déjà lourde d'ambiguïté et d'incompréhension. À l'occasion de la présentation en 1958 à la Galerie Charpentier de la série « Les horreurs de la guerre et la passion du Christ », Francis Mauriac écrit dans son bloc-notes « Foule imbécile confrontée à un désespoir dont elle n'entend pas le cri qui devrait être le sien ». Mauriac n'est d'ailleurs pas le premier à se pencher sur le cas Buffet. Cocteau a préfacé une exposition de l'année précédente et Giono vient de lui consacrer une monographie. Aragon, dans les lettres françaises, le décrit subtilement comme un peintre du réel, mais de sa réalité à lui, avant de faire volte-face dans une autre livraison des mêmes lettres françaises où, au nom du réalisme socialiste, il engage à suivre plutôt les exemples de Taslitsky et Fougeron. Jean-Paul Sartre, dans un élan d'enthousiasme, ébauche un texte, mais le laisse en suspens, sans doute influencé par les réflexions malveillantes qui montent ici ou là. Car Bernard Buffet, peintre figuratif, mais d'aucun parti, est tout à fait dérangeant. Dès 1951, les expositions se suivent. À part celle de Paris et exclusivement chez Maurice Garnier, elles se tiennent à New York, chez Knoedler, à Londres, Amsterdam, Berlin, à Bâle chez Baeller, Venise, Toronto, au Musée d'art moderne à Tokyo et à Kyoto. Et il faut savoir qu'un musée Bernard Buffet existe au Japon. Les sculptures font aussi partie de ses activités. Quant à la gravure qu'il pratique avec passion, signalant les illustrations pour le chant de Maldoror de Lautréamont, les points sèches pour illustrer la passion du Christ, la voix humaine de Cocteau, la peste, la chute et l'étranger de Camus, la liste est longue, n'oublions pas l'enfer de Dante. Il faut s'y ajouter le travail au théâtre, à l'opéra et pour les ballets. Le long de la vie, il a été accompagné de nombreuses publications, parlons pas des préfaces des catalogues, des articles dans la presse et dans les magazines spécialisés, un nombre impressionnant de monographies a décortiqué son travail. Parmi les auteurs, citons quelques-uns, Pierre Descargues, Jean Giono, Pierre Berger, Maurice Drouin, Pierre Cabanne, Alain Avila, Jean Le Pichon, Lydia Rambourg. Le baron Gros, qui a tant admiré, et en particulier sa bataille de l'eau, n'a certainement pas marqué de le confronter dans cette quête. Il faut réagir contre l'expressionnisme qui ne mène à rien, disait Buffet. Il nous faut abandonner l'idée naïve que c'est par une exagération des formes que l'on peut plus fortement s'exprimer et que la peinture d'histoire est un genre loin d'être épuisé. Outre la série consacrée à l'enfer de Dante, les séries les plus puissantes, avouant sans hésiter les plus spectaculaires, sont, du moins pour moi, la Passion de Christ avec toutes ses figures alignées, vidées de leur chair, comme figées pour toujours devant ce drame. Car ce Christ et cette femme sont des gens ordinaires, des gens de la rue, qui revivent devant nous l'énigme de nos origines. Si, comme le souligne Alain Avila, l'esprit de la tradition est ici respecté, l'image est bouleversante par sa simplicité crue, sa rugosité, sa force nue d'évocation. Regardez, ce n'est pas voir, voir, c'est toujours une cruauté. On pourrait donner raison à ceux qui prennent ces personnages pour des autoportraits, tellement Buffet était de complexion fragile. Mais il s'agit avant tout d'un espace dominé par un geste puissant, hargneux, geste inédit que la peinture ne connaissait pas encore. Cet espace est en rupture avec toutes les mièvries de l'art français figuratif ou abstrait de ces années-là. Buffet, c'est lui qui, dans l'immédiate après-guerre, capte, transmet, incarne les échos irrépressibles du traumatisme. Toute la tragédie est restituée avec si peu de moyens, si peu de couleurs, exprimé par le seul recours à un art en total décalage avec les productions de l'époque. D'un côté, les tenants d'une abstraction pure et dure pensaient que la paix viendrait d'un art commun à tous les peuples d'Europe et qui saurait les réunir. De l'autre, les tenants du réel voulaient que l'art n'oublie jamais une telle horreur. La guerre avait en effet produit une irréversible cassure de la scène artistique où rien ne pouvait plus être comme avant. Cependant, ce que Bernard Buffet apportait, imposait, c'est une solution de peintre, pas un discours d'idéologue. Qu'est-ce que donc une solution de peintre ? C'est reprendre en questionnant sa propre sensibilité au questionnement du monde. Il ne reste au peintre qu'à se battre avec ses armes, se battre et témoigner, et cela est aussi dérisoire qu'essentiel. Dans cette perspective, un tableau de Bernard Buffet, parmi beaucoup d'autres, a toujours retenu mon attention. C'est la nature morte aux deux tables. Là, il nous montre que si le présent ne l'intéresse pas, si l'actualité l'indiffère, le réel, lui, il ne peut s'en passer. Il nous ramène à l'objective réalité de la surface, à cette toile faite de deux planches d'un chromatisme extrêmement réduit, une toile presque abstraite, minimaliste, avec une présence prégnante du vide, et pourtant on subit un choc frontal, ces deux plans qui s'affrontent en bas du tableau créent une dynamique et en s'écartant vers le haut suggèrent presque un paysage illusoire, avec une perspective à l'envers, avec ce si peu, beaucoup, comme disait Miss van der Rohe. Cette peinture semble faire le lien entre le monde et la pensée que nous sommes en train de développer à son propos. Depuis Lautréamont, Mallarmé et les surréalistes, les objets ont cessé d'avoir pour seule valeur ce que l'usage leur accorde. Escabeaux, couteaux, fourchettes, lampes à pétrole, fer à repasser, chevalet, voire crucifix, ont leur propre signification symbolique. Bernard Buffet, lui, fuit l'analyse, refuse le cérébral, se dépouille des obstacles susceptibles à brider son instinct. Il nourrit sa peinture de ses sensations, de ses émotions, tant physiques que morales. Il fait de chaque objet de ses natures mortes des dépouilles, des carcasses hantées par le vide. Ces plages sont faites de trois bandes, sable, mer, ciel, où dominent des structures verticales, plongeoires ou plutôt potences. Avec Otto Dix, Gross, Mušić, Buffet faisait partie de ce petit groupe d'artistes que n'hésitait pas à convoquer la violence, ni les gouffres, les malheurs, les désespoirs de ce monde. Sa culture artistique prescrivait la figure, mais chez lui, la figure se changeait en énigme, non en preuve, en métaphore poétique qui n'était en rien la pièce d'un procès ou d'un jugement. Annabelle, sa femme, disait qu'elle était parfois jalouse de la redoutable rivale qui était la peinture de Bernard Buffet, car il peignait comme on crie, comme on griffe, comme on pleure, comme on caresse, comme on chante. Le détourner de son atelier s'apparentait quasiment à un meurtre. À force de se questionner, les peintres parfois oublient de peindre. À trop s'interroger sur la nécessité de l'art, il en arrive à prescrire sa mort. Buffet avait opté pour ce métier douteux en assumant un risque majeur, celui de refuser tout appareillage théorique. Ses tableaux n'avaient besoin ni des textes, ni des commentaires. Ils se tenaient à l'écart de toute raison sociale comme de toute philosophie. Pour lui, le geste était tout, et ce geste que signifiait tant n'avait hors de lui-même rien à dire. Ce geste, ce trait de première nécessité n'était d'ailleurs pas sans rappeler l'usage brutal, foudroyant des mots chez Rimbaud. La peinture de Bernard Buffet répond essentiellement à un impérieux besoin intérieur qui échappe au temps. Comme le notait Alberto Giacometti, dans toute œuvre d'art, le sujet est primordial, que l'artiste en soit conscient ou non. S'il y a là une pensée, une philosophie en dehors de toute psychologie, elle ne se manifeste qu'après coup et marque une évidente, une incroyable distance entre l'artiste et ses sujets. En tout et pour tout, je peins, affirmait-il, vivant entouré de ces toiles comme s'il s'agissait des trophées d'une chasse où il était à la fois le tueur et la proie. Taxer son œuvre de misérabilisme ne constitue qu'un contresens de plus. Il n'y a en effet rien de commun entre lui et Francis Gruber, par exemple, qui tente de représenter la peine, la misère, la souffrance, en quelque sorte pour elle-même, alors que Buffet se saisit des objets ordinaires qui occupent son espace, son champ de vision, dans une intense proximité corporelle, tout en proposant une appréhension, une lecture qui vont bien au-delà d'une saisie au premier degré. Plus qu'une manière de faire, l'acte de peindre est pour lui une manière d'être. Comme Courbet, qu'il admirait infiniment, Buffet pense que c'est la sincérité de l'acte de peindre qui conditionne et révèle la vérité. Une partie de l'existence de Bernard Buffet est contemporaine de celle de Picasso, Matisse, Braque, Miro, Chagall et autres Dali. En notant cela, on perçoit immédiatement dans quel isolement il fut pendant tout ce temps, comme laissé sur une voie parallèle, allant son chemin sans se retourner, comme tenu à distance par la seule obsession qu'il habitait totalement, passionnamment, sa peinture. Cette peinture a été sa vie, toute sa vie et rien d'autre. Là se trouve peut-être la cause de son rejet par le milieu artistique officiel. Inconstatablement, cet ostracisme le blessait et il pressentait que cette blessure n'était pas seulement la sienne, mais celle qui infectait tout l'art français contemporain. C'est pourquoi il faut, et c'est par là lui rendre hommage, rappeler à quel point Bernard Buffet fut un pestiféré de la culture française, comment il fut banni de toutes les expositions et manifestations et comment il se retrouva seul avec son œuvre. Si ce n'était cet institut dont il a vécu l'élection comme un honneur, très rares furent les lieux où l'on pouvait parler de lui avec éloge et reconnaissance. Le succès ne se démentait pas, les jalousies abstrues perdurent. N'ayant aucune commande publique à Quai des Malmais, il fut traité en paria. Pourtant, rendre justice au peintre, à son énergie, à sa culture et à sa force, ce serait faire œuvre de lucidité et reconnaître qu'à l'instar de ce qui a été identifié, certes pour des raisons différentes, comme le mystère Picasso, il existe bel et bien un mystère Bernard Buffet, tant sa vie et son œuvre forment une combinaison d'éléments novateurs, opérants, contradictoires. Pourquoi tant d'attraits initiaux furent-ils suivis d'un tel déni? L'explication tient sans doute en première analyse aux faiblesses du monde artistique français qui, dès qu'il se croit en perte de vitesse, dénigre d'abord les siens, usant volontiers de l'anathème et cherchant dans ses propres rangs des victimes expiatoires. Bernard Buffet fut l'une de ces victimes et, si l'on ose dire, les plus en vue. Mais le vent tourne, les forces s'inversent, pour peu que l'élan vienne soudain de l'étranger. De jeunes critiques en France découvrent peu à peu Bernard Buffet et s'emploient à le faire réapparaître, sinon à lui offrir une résurrection à sa mesure. Il y a 2 ans, à Beaubourg, lors d'une exposition intitulée « Mon cher peintre », un jeune conservateur a osé l'exposer. Et il était également présent dans une autre manifestation officielle l'année dernière, au Grand Palais, « La force de l'art ». Signe avant-coureur au retour sans lendemain. Nous sommes quelques-uns à parier sur la pérennité d'une œuvre qui renoue directement et presque férocement avec l'énigme du symbolique. Permettez-moi quelques mots encore pour mieux cerner ce personnage solitaire. Je fais ici appel aux entretiens qu'il a accordés et qui précisaient comment il se dévoile à travers ses goûts, ses préférences. La première évocation est celle de la Pietà d'Avignon. Pour Bernard Buffet, c'est le plus beau tableau au monde. C'est lui qui résume l'enjeu de toute la peinture. Et cette opinion, qui peut paraître bien absolue, je la partage entièrement avec lui. Autre admiration, la bataille d'Eylau, de Grosse, les pestiférés de Jaffa de Jéricho, mais aussi Jacques Callot, David, Courbet et par-dessus tout Rembrandt. En revanche, il n'aimait pas Raphaël, Piero della Francescani, Greco, trop maniéré et caricatural selon lui. Chez Van Gogh, c'est le message qui le retenait, cette aventure d'un autre ordre qui transcendait le phénomène de la peinture. Soutine, Modigliani, Morandi, également proches, et l'on devine pourquoi, tandis qu'il considérait Matisse comme un peintre mineur. Il considérait l'abstraction comme une impasse et les peintres abstraits comme des vrais pompiers modernes. Il avait horreur de Manessier, la Pique-Pignon et pas de Hartung. Il n'appréciait pas le cubisme, mais était sensible à la pudeur de Juan Gris. Il disait aussi que le vrai courage pour un peintre, ce n'est pas de surprendre à tout prix, mais de communiquer, alors même que la peinture n'est pas du tout repos, que c'est un rude combat où il faut se battre contre soi-même et contre tout ce qui peut opposer à cette irréductible volonté de peindre. Finalement, l'hostilité qui a dû endurer, la haine parfois dont il fut entouré, reste peut-être le plus paradoxal et le plus beau cadeau qui lui a été fait. Il a ainsi su garder cet état d'alerte, la vigueur de son trait à l'armée incisif, sans concession ni reniement. Écoutons-le, je ne pense jamais aux autres quand je peins. Si tel était le cas, je ne peindrais plus rien. Et encore, l'optimisme m'a toujours semblé une forme de la débilité. L'intellectualisme a tué le spirituel et le sensible dans la peinture. La réussite, l'argent n'ont rien changé à ma vie. La réussite n'a jamais été prévue dans mon programme. Et peu de temps avant de choisir sa fin, pour un artiste, demande-t-il, à quoi bon le suicide ? De toutes les façons, on ne part pas. Les œuvres demeurent. En ce qui me concerne, je vois Bernard Buffet comme un artiste qui a fait de sa rage le ressort même de sa pratique artistique et du dépassement de soi. Être peintre, c'était à ses yeux être, tout simplement. Son destin s'est ainsi pleinement confondu avec l'idée de l'art. Merci.
Merci. La séance est levée.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie d'installation du peintre Velikovitch sous la coupole. Cette séance exceptionnelle s'est déroulée le mercredi 20 juin 2007. Vous avez entendu Pierre Schanderfer, président de l'Académie des Beaux-Arts, pour l'année 2007, introduire la séance, puis le discours de Jacques Tadei, compositeur et membre de l'Académie des Beaux-Arts, accueillant son nouveau confrère. Et, selon l'usage, le discours de Vladimir Velikovitch, élu membre de la section de peinture le 7 décembre 2005 au fauteuil précédemment occupé par Bernard Buffet.